Nous allons maintenant nous demander s'il n'y a pas une manière chrétienne de nous taire. La première manière chrétienne de nous taire, c'est de vraiment découvrir ou redécouvrir ou donner un sens chrétien à l'expression « passer sous silence ». Il y a bien des gens qui disent « Ah, moi j'ai vu telle chose, j'ai entendu telle chose, mais je vais passer ça sous silence. » Ça peut être une lâcheté comme nous l'avons vu ce matin. C'est parce qu'ils n'ont pas le courage de prendre position puis de remettre les choses en place. Puis on peur de s'en tirer des ennuis en prenant position. Alors, moi, je fais comme si j'avais rien vu puis rien entendu. En fait, ils capitulent, c'est une lâcheté. Mais ça peut être une victoire. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette expérience malheureuse dans notre Église canadienne qui était arrivée à Mgr Joseph Charbonneau, l'ancien archevêque de Montréal, qui a précédé le cardinal Léger, par qui j'ai été ordonné prêtre d'ailleurs. Il est originaire de Lefebvre ici, je pense, ici en Ontario, tout ça. Et à la suite de circonstances que je ne décrirai pas dans le détail, mais que je trouve et que je n'hésite pas à déclarer, même si c'est sur cassette, extrêmement regrettable, pour ne pas dire scandaleuse dans la vie de notre Église, du jour au lendemain, on est venu demander la démission de Mgr Joseph Charbonneau. C'était un homme d'une envergure et d'une sainteté incroyable, qui avait un charisme qui lui permettait de voir venir les événements d'une façon extraordinaire. Quand j'ai été ordonné prêtre en 1947, il m'a fait venir et il m'a dit « Mon fils, je vais vous envoyer aux études. » Je dis entre parenthèses en blaguant, il m'a dit « Qu'est-ce que vous aimeriez étudier? » Puis moi, j'avais dit « Bien, peut-être le droit canonique. » Il dit « Non. » Je me rasseye une deuxième fois. J'ai dit « J'ai pris ma maîtrise en théologie, peut-être mon doctorat en théologie. » Il me dit « Non. » Alors, c'était dans le temps où on employait les grandes expressions « Excellence révérendissime. » J'ai dit « Vous devez peut-être avoir un plan. » Il dit « Oui. » Vous allez aller étudier les sciences sociales, économiques et politiques, où vous voudrez dans le monde, vous prendrez les années qu'il faut, mais mon fils, nous sommes en 1947, voici les problèmes qui nous guettent, et il a commencé à m'énumérer, 1947-1948, on va avoir telle crise, 1947-1948-1949, on va avoir tel problème, et il m'a amené de 1947 à 1967, comme ça là. Et ces problèmes-là nous menacent, puis il faut aller au-devant des problèmes avant que ces problèmes-là nous poignardent dans le dos. Et ces problèmes-là nous obligent à prendre des positions aujourd'hui, et mes collègues dans l'Épiscopat et d'autres me critiquent d'être dangereusement d'avant-garde, mais je vais former un clergé prêt à faire quelque chose dans ce sens-là. Alors, il m'envoie aux études. Mon père meurt 2 mois après, entre Noël et le jour de l'an, je reviens. Je lui dis au funérailles que je suis content des sciences sociales, mais que qu'est-ce que vous voulez faire? Un prêtre dans le diocèse de Montréal sur 1500, qu'est-ce que ça va faire comme influence? J'ai dit, pourquoi n'envoyez-vous pas 4-5 prêtres en même temps à étudier dans différents pays du monde? Quand on va revenir, on va former une communauté sacerdotale de 5-6, on va vous donner le rendement parce qu'on va travailler en communauté de 7-8. D'accord. Alors, il en a envoyé un autre à Louvain, me rejoindre en Belgique. Il en a envoyé 2 à Lille en France, un à Québec, à l'Université Laval. Et puis après ça, on était tous aux études. Mgr Charbonneau, quand on apprend par la radio de Radio Luxembourg, un bon après-midi que je préparais un examen, que l'archevêque de Montréal avait démissionné pour raison de santé. Or, c'était un homme qui était en pleine forme. Mais il y avait eu, à cause de son attitude, des gens dans son entourage, dans l'épiscopat ou dans le clergé, qui ont commencé à vouloir le pourchasser, puis à un moment donné, dire que c'était un homme qui aurait pu amener un schisme dans l'Église canadienne. Et on lui a demandé sa démission. Il n'avait pas le choix. on lui a même dit, voici, signez le papier, et il vous est défendu d'aller vous défendre à Rome, et vous devez aller finir vos jours à Victoria, Colombie-Britannique. Et il est parti par le train, il est arrivé là-bas, les journalistes, tout le monde sentait que c'était cousu de fil blanc, ils ont voulu tenir une conférence de presse. Le plus loin qu'il est allé, c'est au journaliste qui a dit « Comment est votre santé ?» Il a répondu « Elle est très bien, elle est très bonne, je vous remercie. » Et ils ont voulu savoir pourquoi il avait démissionné, pourquoi on l'avait forcé, comment ça s'est passé. Il n'a rien dit. Il a tout passé sur silence comme un saint. Il y a je ne sais pas combien de prêtres qui sont allés le voir là-bas, j'en suis un. Quand on allait le voir, on parlait de tout, de l'amour de l'Église, de la vie pastorale, de tout. Il ne parlait jamais du martyre qu'il avait subi et des mauvais coups qu'il avait reçus. Il a été 15 ans comme ça, à passer sous silence, et ce n'était pas une lâcheté, parce qu'il avait un caractère fort. Et ceux qui ont été là sur place, et j'ai pu après coup, parce que j'ai travaillé à l'archevêché pendant 15 ans à mon retour des études, eu accès à toutes les circonstances, et cet homme avait souffert, et il aurait eu la chance de frapper du poing, de faire un beau scandale, de prendre des gens, de dénoncer un tas de choses, il n'a pas dit un mot. Il est mort comme un saint. Il a été réhabilité par des funérailles grandioses à Montréal. Et tout le monde, après sa mort, a voulu dénoncer ce qui s'était passé. Mais il y a bien des gens, ce n'est pas tous les Mgr Charbonneau. Il y a des gens qui ont une autre manière de passer sous silence. Ils ne disent pas un mot, mais ils nous le font sentir. On leur dit, là, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Oh, il n'y a rien, il n'y a rien. Ah oui, mais tu n'as pas l'air de bonne humeur. Oh non, tu te trompes. Cette torture-là qui intrigue, qui devient là un silence qui fait mal, un silence qui manque à la charité, un silence qui torture, qui intrigue, non, ça, c'est pas chrétien. Savoir passer sous silence, ça doit être une option libre, voulue, sans dommage en dedans pour soi, qui n'emmène aucun refoulement, et sans dommage en dehors pour les autres. Une deuxième caractéristique de la manière de savoir se taire en chrétien, c'est de savoir arrêter de parler à temps. Il y a bien des gens qui, à un moment donné, ont de bonnes intentions, puis ils veulent parler à leur enfant, à leur conjoint, un ami, un parent, un cousin, un collègue. Puis là, ils ont ramassé toutes leurs forces là, pour essayer de dire la vérité avec charité. Puis là, ils commencent, là, puis ils se perdent dans les détails. Et en fait, ce qu'ils veulent dire à quelqu'un, là, c'est que cette personne-là n'a pas fait ce qu'il devait faire. Puis tout ça, puis là, tout à coup, ils arrivent, là, puis ils disent, « Bon, ben ça fait assez longtemps que je t'observe, là, il y a quelque chose que je veux te dire, là. » Bon, il y a 15 jours, là, l'après-midi à 3 heures, tu m'as dit, « telle affaire. » Puis tu as fait ceci, puis tu as fait cela, puis etc. Puis ensuite, un autre exemple, puis tout ça. Et à un moment donné, ils se perdent dans les détails, et les détails attisent le feu, puis remettent la chicane. Un chrétien ne doit pas non plus se perdre dans la répétition puis dans le sermon. Quand on dit à quelqu'un au nom du Seigneur, bien, je trouve que tu as manqué peut-être de franchise ou tu ne m'as peut-être pas dit toute la vérité, ça me fait de la peine. D'autant plus que tu aurais pu être à l'aise pour me la dire, puis je souhaiterais que tu me dises la vérité à l'avenir. Ben, on n'a pas besoin de faire tourner la cassette 15 fois. Puis dire, tu sais, comme je viens de te le dire, n'oublie pas, là, il faudrait que tu me dises toujours la vérité, puis tu ne m'as pas dit la vérité, puis ça me fait penser que ça serait bien mieux si tu me disais la vérité, puis tu ne me cachais pas, là, tout ça. pourquoi répéter puis sermonner? À ce moment-là, ça démasque un manque d'amour, un manque de respect de l'autre. Savoir arrêter de parler également si, pour une raison qu'on n'avait pas prévue, le dialogue est mal engagé. On avait bien prié, on avait bien pensé pour faire une démarche auprès d'un enfant, d'un conjoint, d'un collègue. Puis un événement de dernière minute fait que l'autre est tendu, puis il est agressif, puis ça ne clique pas. Bien, faire preuve d'esprit chrétien en disant, bien, je me rends compte que ce n'est peut-être pas le moment. Veux-tu, on va arrêter. On va se reprendre, c'est tout. Tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit d'être irrité. Je te juge pas. Je pensais que c'était le bon moment pour en parler avec toi. On se reprendra. Ça demande également un esprit chrétien de ne pas se croire obligé de répondre immédiatement à toutes les questions qui nous sont posées. Ça demande un peu d'humilité de croire qu'on n'a pas le monopole du génie. Mais ne pas risquer des réponses si on n'est pas sûr de la réponse ou si ce n'est pas mûr de répondre. Bien des conflits s'enveniment précisément parce que quelqu'un nous arrive et dit « Bon, mais moi j'ai bien pensé à mon affaire, là, puis j'ai deux, trois questions à te poser. » Puis il nous pose des questions. Puis attendre la réponse séance tenante. Mais si on ne les a pas, ne risquons pas d'en donner des demi-réponses ou des réponses qui peuvent être teintées de notre surprise, de notre inconfort, de notre improvisation. Ayons tout simplement la force de dire, bien écoute, je t'avoue simplement là, que tes questions me prennent par surprise et puis je ne te ferai pas l'insulte d'aller répondre n'importe quoi à peu près. Laisse-moi donc y penser, laisse-moi donc prier, laisse-moi donc chercher une réponse valable. Puis dire, Seigneur, ben aide-moi à y répondre. Ça demande du caractère, ça demande aussi une écoute du Seigneur, puis une disponibilité entre les mains du Seigneur. Enfin, nous taire chrétiennement, ça veut dire redécouvrir le sens, la richesse, la portée du silence. Jadis, on nous avait habitués dans des collèges et dans des couvents, où on était habitués dans des communautés à garder des heures de silence. On ne pouvait pas parler de telle heure à telle heure. Tu ne vas pas parler dans les corridors, tu ne vas pas parler ici et là. Mais pour plusieurs, le silence était simplement une abstention de parole. Ils disaient, ben là, il faut que je me taise. Mais le silence n'était pas pour eux une richesse, n'était pas pour eux une valeur. Et plusieurs trouvaient dans le silence une occasion de se réfugier. Une occasion d'être dans leur coin puis de juger les autres en silence. Ou d'éviter de dialoguer. Il était au réfectoire, puis il était assis en face de quelqu'un qui ne pouvait pas digérer. Mais Dieu merci, c'était silence. Tu n'es pas obligé d'y faire face, tu n'avais pas le droit d'y parler. Alors ça sauvait leur affaire. Et beaucoup n'ont vraiment pas, même s'il y avait des moments de silence fixes, appris la richesse du silence. Aujourd'hui, on vit dans un monde étourdissant et on en est venu à avoir une démangeaison de parler. L'affirmationnite, s'affirmer. Et beaucoup de nos jeunes actuellement, avec tout ce bruit-là, ont développé presque une peur. Et pas rien que les jeunes, je pense que nous sommes menacés de ça, nous aussi. Une peur ou une inutilité du calme et du silence. Et beaucoup de gens, par conséquent, ne peuvent pas supporter le silence. Il leur faut avoir une radio qui joue, une télévision qui marche. Se retrouver tout seul là, dans leur maison, puis il n'y a pas de bruit, ils ne sont pas capables de faire face à ce silence. Ils sont deux, trois personnes ensemble, ils ne peuvent pas rester en silence, deux, trois personnes dans la même pièce, dans le même salon, en silence. Ils sont à table en train de manger, et puis il y a un cinq minutes où ça ne parle pas, tout de suite, là, on se croit obligé de rompre le silence. On croit que c'est un manque d'amour, que on est dans une conversation avec des gens, là, puis la conversation tombe, puis là on devient confortable. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne marche pas, ça ne clique pas. Alors là viennent là, toutes les tentations de parler pour parler, et c'est là que les paroles futiles, nuisibles, vides de sens, se mettent à pleuvoir. Quand on assiste à une soirée, là, si on enregistrait toute la soirée, de 2-3 heures, 4 heures, puis on repassait après ça, là, à observer le nombre de futilités, d'inutilités, de choses dommageables qui se sont dites. Puis si on allait retrouver ces personnes-là, puis on leur demandait « Pourquoi vous avez dit ça? Pourquoi vous avez répété 15 fois la même chose dans la soirée? » Si ces personnes-là étaient honnêtes, là, ils admettraient que, ben, je sais pas, là, ça, il fallait quand même faire la conversation. Alors, on perd absolument tout ce sens-là. Et de plus en plus, on multiplie là, les paroles stéréotypées. On a cru à la magie depuis un certain nombre d'années, vous savez, d'appeler les gens par leur prénom, ça fait plus chic. C'est plus dans la charité fraternelle. Dans bien des communautés maintenant, moi c'est toujours mon problème quand j'entre dans une communauté puis il y a 10-15 religieuses, puis ça c'est sœur Jacqueline, ça c'est sœur Françoise, ça c'est sœur Irène, ça c'est encore sœur Jacqueline, ça c'est sœur... Quand je sors de là puis ils me demandent « Avez-vous vu sœur Lalonde? » Je ne sais pas. J'ai vu 3 Jacqueline, 2 Françoise, puis... 4 Pierrettes, mais demandez-moi pas s'il y avait une sœur Lalonde, je ne sais pas. Ça fait friendly, mais c'est pas là que la charité fraternelle est à son meilleur. Tu sais, c'est pas là. Le tutoiement ou le vouvoiement. Il y a des gens que dire vous, ça bloque, alors qu'ils disent tu. Puis il y en a d'autres que ça bloque de dire tu, bien, qu'ils disent vous. Mais qu'on garde ça et on se dise, là, il y a de la belle charité, tout le monde se tutoie. Bon, voyons donc. Il y en a qui manquent à la charité en disant « tu » la même chose. Même dans nos rencontres, là, vous savez, on veut se montrer la fraternité, la charité fraternelle. Faisons attention de développer tout à coup des espèces de mots, là. J'ai rien contre la paix et la joie du Seigneur. J'ai rien contre ça. Ou que la paix du Seigneur soit avec vous, j'ai rien contre ça. Il y a des gens qui nous donnent ça, là, puis qui regardent par-dessus l'épaule la personne en arrière. Ils ne sont pas plus présents à la paix du Seigneur que rien. Il serait bien mieux de dire d'autres choses ou de rien dire. Tu sais? Il y en a là qui, si on arrive et on leur donne la main, puis il n'y a pas une expression là, immédiate, là, ben, il ne doit pas être dans le Seigneur, lui, il n'a pas prononcé le mot Seigneur. Mais s'il m'arrive et il me dit un beau bonsoir, puis je suis content de vous rencontrer, puis tout ça, c'est aussi chaleureux. Seigneur, tu n'as pas limité par des petites phrases toutes faites. Il les a variées dans sa vie. Alors, ne nous laissons pas prendre par ça. Par les prières, tout élaboré, plus on en dit dans la prière, plus le Seigneur doit être impressionné. Voyons donc. Je mentionne ces choses-là, je n'ai rien contre ça, mais le danger, ce serait de finir par croire à la magie de ces expressions-là, ou de ces prières-là. Il nous faut donc redécouvrir la richesse du silence. Le silence, dans toute sa richesse, c'est une présence à soi. C'est une présence au milieu. C'est une présence à lui, le Seigneur, qui favorise trois choses, entre autres. Le silence nous permet d'accueillir ses appels. On dit toujours, bien, moi, je prie, puis le Seigneur ne me répond pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? On est toujours sur la ligne. Il essaye de nous rejoindre, mais ça sonne occupé tout le temps. Il n'y a jamais sa cote d'écoute. Le discernement des réponses, la même chose. Du discernement, c'est bon du discernement en groupe, en parlant, d'accord. Il n'y a rien comme s'asseoir devant le Saint-Sacrement, s'asseoir dans son fauteuil avec conversation, l'écoute du Seigneur. Un bon 5, 10, 15 minutes, où il n'y a pas de bruit, où il n'y a peut-être même pas de message perceptible du Seigneur. Mais le Seigneur est là. Il peut faire germer une idée, puis le lendemain, il va l'arroser, puis il va la faire persévérer, puis il va la développer. C'est parce qu'on lui a donné un quart d'heure d'écoute, là, périodique. À un moment donné, au bout de quelques semaines, il nous a tout tracé une piste nouvelle dans le silence. La digestion transformante de tout ce qu'on entend. Moi, je trouve qu'il y a une disproportion actuellement entre tout le temps que l'on met à lire, à écouter, à agir, avec celui qu'on met à absorber, puis à digérer tout ça. Je vous ai raconté que quand j'ai quitté la fonction de secrétaire général de l'Épiscopat, pour la Fondation Pax Vobis, je me suis accordé 2 années complètes, juste à l'écoute du Seigneur. 2 années que j'ai appelées 2 années de désintoxication et ressourcement. Puis j'ai demandé à mes collègues dans l'équipe de Pax Vobis de faire la même chose. J'ai dit, pendant 2 ans, tout ce que je vous demande, branchez-vous sur le Seigneur, puis laissez-le vous nettoyer, puis laissez-le vous régénérer, puis vous orienter. On commencera les activités de Pax Vobis dans 2 ans seulement, quand il nous aurait dit qu'est-ce qu'il veut de nous et à chacun de nous. Pendant ces 2 années-là, je pense que je n'ai pas lu un volume, je n'ai pas écouté une cassette, je n'ai pas été à une session, je n'ai pas lu de revue, j'ai juste écouté et j'ai vu tout à coup toute une digestion se faire de choses que j'avais lues et entendues il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, puis etc., et que je n'avais jamais eu le temps d'absorber, de mettre ensemble, de rattacher, de regrouper. Et j'aurais pu continuer. Le Seigneur nous demande de ces périodes-là. Et je pense que dans un foyer, autant vous devez favoriser les goûts de chacun, tenir compte des circonstances, de la mode, de la télévision, tout ça, il serait peut-être bon qu'à un moment donné. Et les jeunes l'apprécieraient, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui quittent leur foyer puis leur famille pour s'en aller dans des sectes en ermitage, pour avoir la paix. Il ne faut pas croire que tous les jeunes cherchent et ne désirent que du bruit. Au Grand Séminaire de Montréal, dans la nouvelle formule du séminaire, ce sont les séminaristes eux-mêmes qui, il y a quelques années, ont formé une délégation, qui ont été voir le supérieur et les autorités, puis ont dit, on est fatigué du bruit qu'il y a dans le séminaire ici. On demande que nous soient imposés des endroits et des heures de silence. Pour mûrir notre vocation sacerdotale. Alors, dans les foyers, les familles, ce serait peut-être bon, en discutant avec les enfants, de prévoir qu'après telle heure ou dans tel endroit, il y a un endroit de paix. J'ai justement une de nos collègues à l'équipe Pax Vobis, Isabelle Gauvin. Elle avait une pièce dans la maison qu'elle avait baptisée l'Oasis. Et là, c'était la paix. Ça, c'était différent de l'endroit où était le Seigneur. Alors, il y avait ceux qui voulaient aller, ou celles qui voulaient aller prier avec le Seigneur, prier avec le Seigneur, mais à un autre endroit, on ne fait pas de tapage. On est calme. Dans la familiale, on fait le bruit qu'on veut, puis amusez-vous les jeunes. Mais ce n'est pas du tintamarre d'un bout à l'autre de la maison. Il y a un oasis, puis il y a une place de recueillement et de prière avec le Seigneur. Et ça, ça équilibre pas mal tous les goûts et tous les sentiments par lesquels les gens passent. Et les jeunes l'apprécient. Il y en a qui disaient à leur mère, « Maman, là, moi, j'ai des amis qui viennent ce soir et on réserve l'oasis parce qu'on veut tranquillement rester dans la paix. On ne veut pas se mettre dans l'autre pièce où il y a beaucoup de bruit. » C'était des jeunes. Alors voilà, mes chers frères, mes chères sœurs, ce que j'appelle écouter en chrétien, se taire en chrétien. Alors je le dis encore une fois, la pratique de la charité puis le désir d'unité ne nous demande pas d'être sourds, muets, aveugles ou impotents. Au contraire, des fois, il faut agir, il faut montrer qu'on a entendu, qu'on a vu, qu'on a compris, puis il faut réagir, parce que le chrétien n'a pas le droit d'être un lâche. C'est un homme fort qui porte de la vérité avec charité. Il y a d'autres fois que l'esprit chrétien, l'amour de nos frères et nos sœurs, nous demande de faire comme si on n'avait pas entendu, qu'on n'avait pas vu, et nous demande d'écouter et de nous taire en chrétien. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia.